La mille et une nuits, tome 8, chapitre 7. Histoire du marchand imprudent et de ses deux enfants. Sire, répondit le jeune intendant, un marchand fort riche était sur le point de faire un voyage. Son épouse était alors enceinte. Il lui promit de revenir avant qu'elle accouchât, lui fit ses adieux et partit. Après avoir parcouru plusieurs pays, le marchand arriva à la cour d'un roi qui avait besoin d'un ministre pour l'aider à gouverner et à défendre son royaume. Le marchand lui plut par son esprit et son intelligence. Il lui proposa de rester à sa cour, lui donna sa confiance et le combla de biens et d'honneurs. Au bout de quelque temps, le marchand qui n'avait pu se trouver aux couches de sa femme, comme il lui avait promis, désira d'aller la voir et d'embrasser le fruit de leur union. Il en demanda la permission au roi en l'assurant qu'il serait bientôt de retour. Le roi consentit à son départ et lui donna une bourse qui contenait 1000 pièces d'or. Le marchand s'embarqua sans différer et prit la route de son pays. Cependant, la femme du marchand accoucha pendant son absence de 2 enfants jumeaux. Elle attendait impatiemment son mari et s'étonnait de ne pas recevoir de ses nouvelles. Quelques années s'étant écoulées, elle apprit que son mari était attaché au service du roi de tel pays. S'imaginant qu'il l'avait oublié et qu'il ne reviendrait jamais chez lui, elle prit la résolution d'aller le trouver et emmena avec elle ses 2 enfants. Le vaisseau sur lequel était embarquée la femme du marchand s'arrêta dans une île où le marchand lui-même venait d'aborder. Sa femme, ayant entendu dire qu'il y avait dans le port un vaisseau qui venait du pays où demeurait son mari, dit à ses enfants d'aller sur le rivage et de demander quel était ce vaisseau. Les enfants ayant trouvé le bâtiment se mirent à jouer dessus sans penser à autre chose. Ils étaient si occupés de leur jeu qu'ils laissèrent arriver la nuit et ne songèrent ni à s'acquitter de leur commission ni à retourner auprès de leur mère. Pendant ce temps-là, le marchand reposait tranquillement dans le bâtiment. Éveillé par le bruit que faisaient les enfants, il se lève pour les faire taire et laisse tomber sa bourse parmi des ballots de marchandises. Il la cherche longtemps, ne la trouve pas, se désespère et s'arrache les cheveux. Il s'en prend alors aux enfants et leur dit qu'ils avaient volé sa bourse, qu'il n'y avait là d'autre personne qu'eux et qu'ils ne jouaient autour de ces ballots que pour trouver l'occasion de faire quelques friponneries. En même temps, il saisit un bâton et leur en donna plusieurs coups. Au cri de ces pauvres créatures, les matelots s'assemblèrent et dirent que les enfants de cette île étaient tous des fripons et des voleurs. Le marchand, prévenu de plus en plus et irrité contre ses innocents, jura qu'il allait jeter à la mer s'il ne lui rendait sa bourse. En effet, dès qu'il eut prononcé ce serment, il les prit, les attacha chacun à une botte de canne à sucre et les jeta dans la mer. L'épouse du marchand, voyant que ses enfants ne revenaient pas, sortit pour les chercher. En passant devant ce bâtiment, elle demanda si quelqu'un n'avait pas vu 2 petits enfants de tel âge habillés de telle manière. On lui dit que ses enfants étaient, selon toute apparence, ceux qu'on venait de jeter à la mer. Cette femme se mit aussitôt à crier « Oh douleur, oh désespoir! Votre père, mes chers enfants, ne vous verra donc jamais !» Un des matelots lui demanda qui était son mari. Elle nomma le marchand et dit qu'elle était partie pour l'aller trouver. Le marchand l'entendit et la reconnut aussitôt. Il sortit éperdu, déchira ses habits et se frappa le visage. « J'ai fait, disait-il, périr moi-même, mes enfants. Voilà le fruit de mon emportement, de ma précipitation, de mon imprudence. » Le marchand, après avoir longtemps pleuré ses enfants, prit la résolution de tout quitter pour tâcher de découvrir ce qu'ils étaient devenus. Il quitta le bâtiment sur lequel il était et en prit un autre pour commencer aussitôt à parcourir les mers voisines et à visiter toutes les îles et toutes les côtes. Cependant, les enfants du marchand, soutenus heureusement sur les flots par les bottes de canne à sucre auxquelles ils étaient attachés, furent poussés par le vent sur différents rivages après avoir été longtemps le jouet des vagues. L'un d'eux, jeté sur les côtes d'un royaume voisin, fut recueilli par un des principaux émirs de la cour qui en informa aussitôt le roi. Ce prince, qui n'avait pas d'enfant, fut charmé de la figure de celui que le hasard lui présentait et résolut de le faire passer pour son fils. Il ordonna à l'émir de ne rien divulguer de cette aventure et fit répandre le bruit qu'il avait, jusqu'à présent, caché soigneusement la naissance de son fils et qu'il l'avait fait élever secrètement pour le soustraire à certains dangers dont il était menacé par les prédictions des devins. La chose fut crue d'autant plus facilement que le roi fit distribuer beaucoup d'argent parmi le peuple et ordonna à cette occasion de grandes réjouissances. On fit paraître le jeune homme en public. Chacun fut enchanté de sa bonne mine et il fut reconnu solennellement pour héritier de la couronne. Au bout de quelques années, le roi mourut et le jeune homme lui succéda. Sa puissance s'affermit bientôt par sa bonne conduite. Il se fit aimer de ses sujets et respecté de ses voisins. Le marchand et son épouse, après avoir longtemps parcouru les mers sans pouvoir apprendre aucune nouvelle de leurs enfants, perdirent tout espoir de les retrouver. Ils crurent qu'ils avaient été engloutis par les flots et fixèrent leur séjour dans une île. Un jour que le marchand se promenait sur la place publique, il vit un jeune esclave que le crieur allait mettre en vente. Il s'informa de son âge et lorsqu'il l'eut appris, il dit en lui-même « Mes fils auraient précisément le même âge. J'ai envie d'acheter ce jeune esclave pour me consoler un peu de leur perte. » Il l'acheta en effet, le mena chez lui et le présenta à sa femme. Celle-ci fit un cri en le voyant et dit « C'est un de mes enfants !» Le marchand et sa femme, transportés de joie d'avoir retrouvé un de leurs enfants, lui demandèrent aussitôt des nouvelles de son frère. Il leur dit que les flots les avaient séparés et qu'il ne savait ce qu'il était devenu. Cette nouvelle les affligea. Mais ils conçurent l'espoir de retrouver l'autre un jour, comme ils avaient retrouvé celui-ci. Le fils que le hasard venait de rendre au marchand était déjà grand et dans l'âge de prendre un état. Ils auraient bien voulu qu'il ne s'éloignât pas d'eux, mais son goût l'entraînait vers le commerce. Le marchand lui acheta un fonds considérable, composé des marchandises les plus précieuses. Le jeune homme partit et arriva par hasard dans la ville où le roi son frère faisait sa résidence. Le roi, informé de l'arrivée d'un marchand, pourvu des objets les plus rares et qui pouvait le mieux convenir à un souverain, l'invite à venir dans son palais, le fait asseoir et s'entretient avec lui. Quoiqu'il ignorât qu'il fût son frère, la nature, qui ne laissait pas que d'agir, lui fit concevoir un secret attachement pour lui. Il lui proposa de rester à sa cour, lui promit de l'élever aux plus grands honneurs et de lui donner tout ce qu'il désirerait. Le jeune marchand, flatté de l'accueil du roi, accepta ses offres. Au bout de quelque temps, voyant que le roi ne voulait pas qu'il s'éloignât, il informa son père et sa mère de ce qui lui était arrivé et les engagea à venir le trouver. Ils se rendirent auprès de leur fils et furent charmés de voir la faveur dont il jouissait et le rang auquel le roi l'avait élevé. Un événement imprévu vint bientôt troubler leur joie et leur causer les plus vives alarmes. Le roi sortit un jour de sa capitale pour chasser, accompagné seulement de quelques personnes. Sur le soir, ne voulant pas rentrer encore dans la ville, il fit dresser une tente au milieu de la campagne et ordonna qu'on lui servît à manger. La fatigue et l'exercice excitant son appétit, il s'abandonna au plaisir de la table, but plus qu'il n'avait coutume, et se laissa presque aussitôt aller au sommeil. Le jeune favori, voyant son maître dans cet état et mal accompagné, craignit pour la sûreté de sa personne. Il voulut passer la nuit devant sa tente et lui servir de garde. Sur le champ, il se lève, tire son épée et se met en sentinelle devant la tente du roi. Un des pages, jaloux depuis longtemps de sa faveur et de la confiance que le roi avait en lui, le voyant ainsi l'épée à la main, lui demande ce qu'il faisait à l'heure qu'il était et au milieu d'une campagne aussi tranquille. « Je veille, répondit-il, à la sûreté du roi. Ses bontés à mon égard me font un devoir de craindre pour lui, lors même qu'il paraît n'y avoir rien à craindre. » Le lendemain matin, le page raconta à plusieurs de ses camarades l'action du favori. Elle augmenta leur haine et ils crurent avoir trouvé l'occasion de le perdre et de se débarrasser de lui. Dans ce dessein, ils se présentèrent devant le roi. L'un d'eux lui dit qu'il avait un avis de la plus haute importance à lui donner. « Quel est-il ? » dit le roi. « Ce jeune marchand, continua le page, qui a l'honneur d'approcher si souvent de votre majesté et que vous avez élevé au-dessus de tous les seigneurs de la cour, a formé le dessein d'attenter à votre vie. Nous l'avons vu hier soir, tenant une épée nue à la main et épiant le moment de se jeter sur vous. » Le roi changea de couleur à ce discours et demanda au page s'ils avaient quelque preuve du dessein criminel qu'il prêtait à son favori. Le page, qui portait la parole pour les autres, répondit « Si le roi veut ce soir faire semblant de dormir et observer son favori, il verra de ses propres yeux la vérité de ce que nous lui avons dit. » Les pages allèrent trouver ensuite le favori et lui dirent Le roi approuve fort votre zèle. Il est très satisfait de ce que vous avez fait hier. Ce trait a encore augmenté la confiance qu'il avait en vous. Et vous ne devez pas manquer d'agir de la même manière toutes les fois que la même circonstance se présentera. » À la nuit suivante, le roi, s'étant retiré dans sa tente, fit semblant de dormir, comme la veille, et attendit que le jeune homme parût pour exécuter le projet qu'il lui supposait. Il le vit bientôt s'avancer à l'entrée de la tente, et là, mettre l'épée à la main. Le roi, transporté de colère, et sans attendre davantage, ordonna qu'on le saisît et lui dit: « Voilà donc la récompense de mes bontés. Je t'ai témoigné une confiance particulière, et tu veux attenter à mes jours ?» Deux des pages du roi s'avancèrent et demandèrent s'il fallait trancher la tête au jeune marchand. « La précipitation, répondit le roi, est quelquefois dangereuse. On peut toujours punir un coupable, mais on ne peut rendre la vie à celui à qui on l'a ôté. Il faut examiner toutes choses à loisir. » Le roi ordonna seulement qu'on conduisît le jeune homme en prison. Il rentra dans la ville et s'occupa d'autres affaires. Le lendemain, le roi alla encore à la chasse et ne revint que le soir. Il semblait avoir oublié l'affaire du jeune marchand. Les vizirs lui représentèrent qu'il était dangereux de tarder à punir en pareille circonstance, que l'espoir de l'impunité pouvait enhardir des ambitieux, et que déjà le peuple murmurait. Le roi sentit alors se ranimer sa colère. Il ordonna qu'on amenât le jeune homme et qu'on lui tranchât la tête. On lui banda les yeux. L'exécuteur leva le glaive sur sa tête et, s'adressant au roi selon l'usage, lui demanda s'il devait frapper le coup mortel. Le roi, apercevant en ce moment un vieillard et une femme qui accouraient, les yeux baignés de larmes et avec toutes les marques de la plus grande désolation, ordonna qu'on suspendît l'exécution, fit approcher ses inconnus, prit un papier que le vieillard lui présenta et lut à haute voix ces mots: « Au nom du Dieu de bonté et de miséricorde, ne vous hâtez pas de faire mourir ce jeune homme. Un excès de précipitation m'a rendu cause de la mort de son frère. Et maintenant, je gémis de sa perte. Si vous voulez une victime, faites-moi périr à la place de celui-ci. » L'homme inconnu, qui était, comme on voit, le père du jeune marchand, était prosterné aux pieds du roi et fondait en larmes, ainsi que son épouse. Le roi, touché de ce spectacle, les fit relever et dit au vieillard de raconter son histoire. Le roi eut à peine entendu quelques mots qu'il poussa un cri, se leva de son trône et, se jetant au cou du vieillard, lui dit: « Vous êtes mon père !» Il embrassa ensuite sa mère, courut à son frère, lui arracha le manteau de dessus les yeux et le serra dans ses bras. « C'est ainsi, ô roi, dit le jeune intendant en finissant, c'est ainsi que la précipitation du marchand lui causa bien des regrets et que la sage lenteur de son fils l'empêcha de faire périr son frère et lui fit retrouver son père et sa mère. Que votre majesté ne se hâte donc pas de me faire périr, de peur qu'elle ne se repente ensuite et ne sois fâché de ma mort. » Le roi, ayant entendu l'histoire du marchand et de ses deux enfants, ordonna de nouveau de reconduire le jeune esclave en prison, et dit au vizir qu'il examinerait encore le lendemain cette affaire, et que ce retard n'empêcherait pas le coupable d'expier par sa mort le crime qu'il avait commis. Le lendemain, qui était le troisième jour de la détention du jeune prince, le troisième vizir se présenta devant le roi et lui dit: « Ô roi, ne perdez pas de vue l'affaire de votre jeune intendant et ne différez pas davantage le châtiment qu'il a mérité. Son audace est connue de tous vos sujets et l'on attend impatiemment sa punition. Faites-le périr au plus tôt, afin que l'on cesse de parler de cette affaire et qu'on ne dise pas que le roi a trouvé un jeune homme dans l'appartement de la reine et lui a pardonné un crime qui ne méritait pas de pardon. » Le roi, piqué de ces paroles, ordonna qu'on fît venir le jeune intendant chargé de chaînes et lui dit: « Malheureux, tu as compromis mon honneur, tu as porté atteinte à la réputation de la reine, il faut que je te fasse ôter la vie. » « Ô roi, reprit le jeune homme, attendez encore un peu pour venger l'injure que vous croyez avoir reçue. La patience est toujours utile et souvent nécessaire. Elle adoucit les maux et procure quelquefois les plus grands avantages. Dieu ne manque jamais de récompenser la patience. C'est elle qui a tiré Abou Zaber du fond d'un puits pour le faire monter sur le trône. » « Quel était cet Abou Zaber ? » reprit vivement le roi. « Raconte-moi son histoire. »